15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Pendant une heure, avec le docteur Jimmy Mohamed, notre médecin européen, nous tentons de vous éclairer sur les sujets de santé qui vous préoccupent. Et justement, comme tous les jours, il est à mes côtés dans ce studio. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au programme aujourd'hui, si vous avez du mal à contrôler votre poids, le message de notre invité du jour, le docteur Martine Cotina, va vous intéresser. Si vous grossissez, ce n'est pas parce que vous mangez trop, c'est parce que votre flore intestinale, votre microbiote est déséquilibrée. Alors pour y remédier et maigrir, donc, elle nous présentera son programme nutritionnel sans stress et qui, dit-elle, fait maigrir pour de bon. Elle va nous apprendre à charmer nos bactéries et en le faisant, en 4 semaines, on peut déjà retrouver la ligne. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, nous allons avoir la joie d'avoir une chronique beauté aujourd'hui avec notre journaliste chroniqueur Benjamin Lévesque, expert en la matière, qui a été pêché pour nous tous les meilleurs conseils pour chouchouter nos cheveux durant l'été. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Elle nous parlera d'exhibitionnisme ou comment certains aiment faire partager leur intimité à d'autres qui n'ont rien demandé.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première question, c'est celle d'Anissa.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je vous appelle aujourd'hui parce que j'ai quelques boutons sur le visage, rien de bien méchant. Et j'ai une amie l'autre jour qui m'a dit de prendre du zinc. Voilà, je voulais savoir si... que vous en pensiez, quelles étaient les vertus du zinc, est-ce que c'est vraiment bon pour la peau. Voilà, merci pour vos réponses. Bonne journée.
Merci beaucoup Anissa pour votre question. Alors étant donné que Jimmy n'en sait rien du tout, si le zinc et les boutons, si quand même.
Quand même, le zinc, c'est un traitement qu'on utilise notamment chez les adolescents quand ils ont un peu d'acné, on sait que c'est plutôt efficace.
Donc c'est une bonne piste alors.
C'est pas mal. C'est pas mal.
Alors très bien. Donc pour en savoir un petit peu plus sur le sujet, on écoute la dermatologue Laurence Netter.
Le zinc est un oligo-élément qui a une action inhibitrice d'une bactérie qui est responsable de l'acné, et surtout des acnés inflammatoires. Donc, un des traitements de l'acné inflammatoire, c'est la cure de zinc pendant 2 mois. Ça n'est pas de loin le traitement de première intention, mais ça peut être un apport un petit plus au traitement classique de l'acné qui repose malgré tout sur la prescription de traitements locaux, puis d'antibiotiques à visée anti-inflammatoire, et puis en troisième ligne, de traitement plus important. Le zinc peut donc être un apport, un élément de plus dans ce traitement, bien que ça ne soit pas le traitement classique de l'acné.
C'était donc le docteur Laurence Netter au micro de Benjamin Lévesque. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur du jour. Cette fois, c'est une question de Gaël. Il a 31 ans et il s'interroge sur un dispositif féminin. On l'écoute.
Oui, bonjour Mohamed, bonjour Mélanie. J'ai une petite question qui me taraude depuis un petit moment sur les préservatifs féminins. En fait, j'ai toujours mis moi les préservatifs à chaque fois. Donc maintenant, je commence à savoir un peu comment on met ça. Mais chez les filles, je ne sais pas, je me pose la question. Je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'elles mettent ça elles-mêmes toutes seules, comment ça marche. Voilà, je suis curieuse que vous pourriez éclairer un petit peu mes lanternes. Merci beaucoup, bonne journée à tous.
Alors Mohamed, docteur Jimmy Mohamed, une question de contraception pour vous. D'abord, un préservatif féminin, finalement, ça ressemble à quoi ?
Alors c'est une gaine qui est en nitrile ou en polyuréthane, vous allez voir que c'est son importance, qui est munie d'un anneau souple aux deux extrémités. Il se place dans le vagin, vous l'avez compris, pour recevoir le pénis au moment de la pénétration. La seule chose, c'est qu'il doit être mis en place plusieurs heures avant et il doit être changé après chaque rapport sexuel.
Donc, est-ce que c'est efficace comme moyen de contraception ?
Alors, en théorie, le préservatif féminin est efficace à 95%, mais si ensuite on regarde son efficacité une fois qu'on l'utilise en pratique avec
dans
les erreurs
vie, ouais.
Exactement dans la vraie vie, eh bien l'efficacité, elle tombe aux alentours de 80%. Et donc, le conseil, c'est peut-être de s'entraîner avant de le mettre pour savoir dans quelle position on est le plus performant. Et puis,
pour bien l'installer.
Et puis surtout, comment le retirer. Pour les plus stressés, il est possible de faire ce qu'on appelle la double protection. Vous utilisez un autre moyen de contraception complémentaire. Ça
peut pas être un préservatif masculin en même temps,
effectivement,
par contre.
Là, ça fait effet ventouse, c'est pas très sympa. Et vous pouvez prendre la pilule ou un spermicide. Et ça permet, en cas d'accident d'utilisation, d'éviter une grossesse non prévue.
Alors, je crois que ce moyen de contraception, il est particulièrement intéressant chez les femmes qui ont une allergie au latex, justement.
Et oui, exactement, parce que ce préservatif, il est fait soit en nitrile synthétique, on l'a dit tout à l'heure, ou en polyuréthane. C'est deux composants qui n'entraînent pas d'allergie. Alors, de façon pratique, il est possible de trouver ces préservatifs féminins dans des pharmacies sans ordonnance ou sur Internet. Le coût, c'est environ 9 euros la boîte de 3 en pharmacie. C'est assez cher, c'est pas remboursé, mais on peut en trouver dans les centres de planification d'éducation familiale ou dans ce qu'on appelle les CEGID, les centres de dépistage qui sont anonymes et gratuits. Mais encore une fois, la bonne contraception, c'est celle que vous avez décidé d'utiliser. On va tordre un peu le cou à certaines idées reçues, notamment sur le stérilet. Il est possible de placer un stérilet.
Même chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants.
Chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Surtout qu'on est dans une période où on a l'impression qu'il y a une forme de défiance vis-à-vis des hormones. Et l'utilisation notamment de la pilule contraceptive est en
nette diminution. C'est moins à la mode. Hein,
c'est moins à la mode parce qu'il y a des effets secondaires. Outre la prise de poids, on sait qu'il y a des effets sur des risques de complications.
Si on est fumeuse.
Exactement, thromboembolique. On peut faire des accidents vasculaires cérébraux. Donc, les femmes en veulent un peu moins. Donc, pourquoi pas le stérilet? Pourquoi pas ce préservatif?
Plus autre chose.
Exactement, plus autre chose. Le moyen de contraception, c'est à vous de le décider. Consultez une sage-femme. C'est remboursé par la Sécurité sociale. Elles ne font pas de dépassement d'honoraires. Ça peut être votre médecin généraliste. Ça peut être dans les centres de PMI. Bref, on a ce qu'il faut pour vous protéger.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Gaël qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invitée du jour, la gastro-entérologue Martine Cotina, qui est l'auteur du livre « Maigrir de plaisir en charmant ses bactéries » chez Thierry Soucard. Je ne sais pas vous, mais moi déjà, la promesse « Maigrir de plaisir », si c'est vraiment possible, je voudrais bien en savoir plus. Alors surtout, surtout, restez sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Martine Cotina. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gastro-entérologue et vous êtes surtout, et c'est pour cela que nous avons invité sur ce plateau, l'auteur du livre Maigrir de plaisir en charmant ses bactéries aux éditions Thierry Soucard. Alors avant de parler de l'influence de ce microbiote sur nos kilos en trop, un mot sur cette notion de poids justement, surtout de surpoids. Vous attaquez le bouquin par une mise au point sur l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est un indicateur, vous dites, qui peut nous signaler un peu qu'on est en surcharge pondérale, mais qui ne suffit pas selon vous.
Exactement. Alors l'IMC, c'est quelque chose de très pratique, qu'on utilise depuis longtemps dans les études scientifiques, aussi en pratique, et qui permet effectivement d'avoir une notion globale de l'excès de poids. Mais il faut savoir que ça ne suffit pas, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que bon nombre de patients avaient un IMC normal, alors qu'ils avaient des maladies métaboliques, un petit peu comme les obèses. Et donc, c'est de là qu'on s'est intéressé, effectivement, à la mesure du périmètre abdominal.
Le tour de taille.
Le tour de taille.
Finalement, beaucoup. On peut avoir donc une IMC normale, un indice de masse corporelle normal, et par contre, un gros ventre, dur souvent chez les messieurs en vieillissant.
Exactement.
Et ça, c'est très mauvais.
Et c'est mauvais parce qu'effectivement, le ventre dur et rond, et c'est embêtant parce qu'effectivement, ce n'est pas souvent du muscle, et c'est plutôt de la fibrose qui s'est installée suite à l'inflammation de cette graisse viscérale. Et donc, c'est bien, bien embêtant parce que c'est un ventre plus dur à perdre.
Mmh. Jimmy ?
On en arrive au sujet central de votre livre, le microbiote, qui serait responsable de la prise de poids. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà, nous rappeler ce que c'est que le microbiote ?
Bien sûr. Alors, le microbiote, d'abord, un microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes, c'est-à-dire de microbes, en fait, que ce soit des bactéries, virus, parasites, champignons, qui vivent un petit peu ensemble, en collectivité, dans un écosystème. Ça, c'est un microbiote, il y en a partout dans notre environnement. Et on en a plusieurs sur notre corps. On a le microbiote de la peau, le microbiote de la vessie, le microbiote dans le sang, un microbiote dans le cerveau.
Enfin, vaginal aussi.
Vaginal, dans toutes les parties du corps. Mais le microbiote intestinal, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'effectivement, on voit fleurir des tas d'études sur cette importance de ce microbiote intestinal.
Et donc, le microbiote intestinal, vous lui mettez tout dessus, entre guillemets, puisque vous dites qu'il est déséquilibré, s'il y a ce qu'on appelle
Exactement.
Une dysbiose, c'est ça, je ne me trompe pas ?
Voilà.
S'il est déséquilibré, qu'il y a trop peu ou qu'il n'est pas assez riche en bonnes bactéries,
Exactement.
Là, on prend du poids.
Effectivement, c'est quand il se déséquilibre qu'il favorise la prise de poids, mais aussi de très de nombreuses pathologies autres que le poids.
Ça me fait plaisir, moi, parce que je me dis finalement, mes kilos en trop, c'est pas ma faute. Tout, c'est la faute de mon microbiote. C'est pas parce que je mange trop, Jimmy.
Ben, c'est vrai que la promesse est assez extraordinaire. Mais est-ce qu'on a des preuves scientifiques de ça ? Est-ce que ça a été testé, je sais pas, sur des souris ou sur dans d'autres modèles ?
Oui, oui, bien sûr. On a des tas de preuves scientifiques avec des études chez la souris qui montrent quand on transfère le microbiote d'une souris obèse à une souris qui n'a pas de germes, c'est-à-dire une petite souris de laboratoire, on va la rendre obèse, même si elle ne mange pas, elle n'a pas des apports très importants.
Et même chez l'homme, ça a été montré.
Et ça a été montré chez l'homme.
Une femme, vous parlez dans votre livre d'une dame qui a eu une transplantation fécale pour une maladie chronique de l'intestin, je crois, et qui a eu le microbiote de sa fille qui était elle-même qui souffrait d'obésité. Qu'est-ce qui s'est passé du
coup ? Exactement. Donc, cette dame avait une colite infectieuse extrêmement grave. qui ne pouvait pas être traité par les médicaments. Et donc, elle a bénéficié effectivement d'une transplantation du microbiote avec le microbiote de sa fille. Et elle a guéri très rapidement.
Mais
en quelques semaines, effectivement, elle a commencé à développer une obésité. Et c'était parce que sa fille était obèse.
Eh oui, c'est incroyable, hein, ça. Mmh. Vous dites aussi dans votre livre que finalement, le microbiote, on a finalement presque une composition qui est propre. C'est-à-dire qu'on aurait tous une signature microbiotique. Ça veut dire quoi, ça ?
Exactement, ça veut dire que chacun a son propre microbiote, un peu comme...
Jimmy n'a pas le même que moi, c'est sûr.
Voilà, exactement, on n'a pas le même, bien qu'on partage aussi...
Quelques bactéries communes.
Quelques espèces en commun, bien sûr, et surtout dans la famille, avec les proches, etc. Mais au départ, bon, effectivement, le microbiote s'installe à la naissance et progressivement, il va s'enrichir. Et donc, la composition de ce microbiote, c'est fonction du mode d'accouchement, fonction de l'allaitement, fonction... des polluants de l'environnement, des antibiotiques éventuellement utilisés, donc de tous les médicaments, fonction de l'alimentation.
Mes parents vont mettre dans mon assiette dès l'enfance aussi.
De l'alimentation, ouais. Bien sûr, ça va jouer un rôle extrêmement important, etc. Donc, effectivement.
Jimmy ?
Avec votre livre, on va donc apprendre à dompter ces bonnes bactéries ou ces mauvaises bactéries.
Les charmer, même, Jimmy.
Les charmer, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que là, c'est la période estivale, c'est l'été, on a beaucoup de magazines qui proposent des régimes un peu miracles, souvent restrictifs. Et finalement, je crois qu'ils ne sont pas terribles. Hein. Vous dites que ce n'est pas tellement recommandé.
Non, moi, je ne suis pas trop pour les régimes restrictifs. Et ça fait depuis très longtemps que je pratique des techniques en disant aux gens, rajoutez ceci, rajoutez cela, etc. Plutôt que d'enlever, enlever, enlever. Et je pense qu'en rajoutant beaucoup plus d'aliments protecteurs...
De variété
et d'aliments protecteurs. Donc du coup, finalement, spontanément, vous réduisez les autres aliments. Et donc, la sélection se fait un petit peu naturellement et beaucoup plus facilement que de vouloir toujours retirer. On s'est rendu compte qu'en plus, le microbiote, il jouait un petit peu avec les index glycémiques, avec les calories. Et donc, il pouvait être perturbé, par exemple, quand on faisait des régimes restrictifs. Si on fait des régimes hyperprotéinés...
Ah, parce que de viande, de volaille, de machin...
Voilà, on va le déséquilibrer. Donc,
en faisant des régimes, on abîme notre microbiote.
Exactement. C'est-à-dire, surtout, par exemple, si vous faites un régime hyperprotéiné, et puis, par exemple, qu'avec des protéines animales, on a montré qu'en 3 jours, le microbiote se transformait.
Waouh ! En 3 jours seulement, déjà, on fait des dégâts, en fait. Hein, parce
exactement.
Que, et le yo-yo, il vient de là, en fait.
Et le yo-yo, le microbiote, yo-yo, ouais. Effectivement, le microbiote participe à l'effet yo-yo. Ouais. Il participe un petit peu à tout, en fait. Ce microbiote, il se mêle de tout. Il est fabuleux, mais il s'intéresse à tout.
Jimmy ?
Finalement, ce que vous proposez, ce n'est pas vraiment un régime, c'est quasiment un mode de vie, en fait. On va réapprendre à manger correctement.
Exactement. Oui, parce qu'en fait, il va falloir tenir sur la vie entière. Et donc, il va falloir changer sa façon de manger. Tout en charmant ces bactéries.
Oui, alors que les régimes souvent restrictifs, on met le paquet pendant 1, 2 ou 3 mois.
Et puis on souffre, terriblement. Hein.
Donc,
exactement.
Pas de contrainte.
Voilà, pas de contrainte. Il faut faire plaisir à ces bactéries, mais on va se faire plaisir en même temps. C'est-à-dire qu'on va rendre l'alimentation encore plus savoureuse qu'avant. Et ça, c'est la clé. Parce que sinon, on va replonger dans les vieilles habitudes.
Et un régime, c'est stressant, parce que je crois que le stress, au-delà de ce qu'on met dans l'assiette, hein, que ce soit de la malbouffe, admettons, c'est pas bon, ça, on va l'expliquer un peu plus après, mais être stressé dans la vie, ça joue sur ce microbiote aussi.
Hein. Exactement.
Donc un régime, entre guillemets, votre programme, en tout cas, qui n'est pas un régime, on va pas être stressé, ça c'est important.
Oui, parce qu'en plus, on va prendre son temps pour l'installer, parce qu'en fait, on va le pratiquer en étapes, et donc on va prendre son temps. Et chacun va le faire à son rythme. Il y a des gens qui vont aller plus vite que d'autres et d'autres qui vont mettre plus de temps. C'est pas grave.
Et puis du coup, on va être moins, si on est moins stressé, on est moins frustré parce que souvent, ce qui nous fait craquer dans le régime, c'est la restriction. Et au bout d'un moment, on pète les plombs et on se jette sur la barre de chocolat dont on taira le nom. Et donc, finalement, c'est d'éviter cette frustration pour tenir sur la longueur.
Exactement.
Docteur Coctina, on ne fait que commencer cet entretien. Vous restez avec nous. Europe 1. Dans un instant, nous allons continuer à vous en dire plus sur ce programme nutritionnel qui permet de maigrir en 4 semaines, hein, sans régime, juste en rééquilibrant notre microbiote. Pour cela, nous allons vous apprendre à charmer donc les bactéries qui peuplent votre tube digestif, à identifier les aliments ennemis et ceux qui, au contraire, doivent être privilégiés. On vous explique tout ça dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous, docteur Martine Coctina. Vous êtes gastro-entérologue et auteur du livre Maigrir de plaisir en charmant ces bactéries aux éditions Thierry Soucard. Alors, docteur Coctina, on a envie de connaître évidemment tous les secrets de votre méthode hein, pour charmer les bactéries de notre tube digestif et surtout maigrir, hein, parce que c'est tout ce qu'on a envie de faire en ce moment, surtout avec l'été qui approche. Pour cela, d'abord, il faut savoir identifier les ennemis de notre microbiote. Je crois qu'on peut dire d'abord que tout ce qui est finalement malbouffe, produits industriels, on peut tous les mettre dans le même sac. Ça fait des dégâts dans notre intestin, dans nos intestins.
Effectivement, si on additionne les additifs, l'excès de sucre, les gras, les additifs.
Les mauvais gras en plus.
Voilà, le mauvais gras, effectivement. Si on additionne tout ça, ça fait un super cocktail qui va déséquilibrer le microbiote et il n'apprécie pas forcément.
Justement, il se passe quoi concrètement dans mon microbiote si je ne le nourris que exclusivement de chips? Alors ça, je vous donne la recette de Jimmy tous les jours. Chips, gâteaux, de plats préparés tout faits. Non, je rigole, il mange très bien. Mais en tout cas, si on est accro à la malbouffe, il se passe quoi très concrètement? Elles meurent, ces bactéries? Qu'est-ce qui leur arrive?
Alors, si Jimmy fait ça, eh ben, d'un coup, ça va être la fête dans son intestin. Les mauvaises bactéries vont être ravies. Elles vont proliférer. Elles vont donc se multiplier au détriment des bonnes bactéries.
Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises. Il y a un équilibre. Ouais,
voilà,
c'est ça.
Il y a un équilibre. Parce que même les mauvaises, quand elles sont sous l'équilibre des bonnes, tout se passe très bien. Mmh. Elles ont sûrement leur rôle aussi intéressant à jouer. Mais quand effectivement il y a un déséquilibre, c'est là qu'effectivement tout le métabolisme est perturbé.
Les mauvaises prennent le dessus. Et comment on grossit finalement? Parce que ça, je crois que vous m'aviez expliqué en préparant cette émission que ça fait de nos intestins une sorte de passoire, hein, c'est ça?
Effectivement. Donc il y a plusieurs. Le microbiote, quand il est perturbé, il va intervenir sur plusieurs facteurs. Mais notamment, par exemple, effectivement, il va modifier la barrière intestinale. La barrière intestinale va devenir perméable, va laisser passer des fragments de bactéries, voire même des bactéries entières, qui vont passer dans le sang et déclencher un phénomène inflammatoire qui va être d'ailleurs proportionnel à la prise de poids.
Donc c'est comme si c'était une passoire et tout d'un coup, tout va dans le sang et ça nous crée des diabètes, des maladies
voilà,
de ce genre-là.
Et de cette inflammation, effectivement, résistance à l'insuline, résistance à la leptine et donc risque de diabète, problème de satiété, etc. Prise de poids.
Jimmy.
Est-ce qu'on peut savoir comment est notre microbiote? Puisque quand on suspecte du diabète, on fait une prise de sang pour chercher la glycémie, on arrive à doser plein de choses. Est-ce qu'on a un marqueur dans le sang, direct ou indirect, de la qualité de notre microbiote?
Alors, on a des marqueurs indirects. Quand, par exemple, vous faites une mesure de la CRP, vous voyez un indice inflammatoire.
Alors, c'est dans une prise de sang. Voilà, on va aller regarder. Ça montre l'inflammation dans le sang.
Sinon, effectivement, on a des marqueurs indirects dans le sang, mesure par exemple de ces fragments bactériens, les LPS, marqueurs de la zone uline, c'est-à-dire des choses un petit peu particulières, mais qui ne sont absolument pas de pratique courante.
Donc on ne peut pas le savoir en fait.
Voilà, ce n'est pas utilisé du tout en pratique courante, c'est plus à l'état de recherche.
Et en faisant analyser nos selles, parce que c'est là-dedans finalement qu'il y a des débris de notre microbiote.
Alors ça se fait, ça se pratique, mais malheureusement, ce ne sont pas
c'est
des techniques
encore,
qui
ouais.
sont validées scientifiquement par nos pairs. Donc c'est vrai que c'est difficile encore, mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus en pratique et je pense que ça va devenir de plus en plus courant parce qu'en fait, notre médecine de demain va être basée sur l'étude et le traitement du microbiote.
On va revenir aux ennemis donc, de notre microbiote. On a parlé donc, des aliments transformés, hein, tout ce qui est malbouffe, etc. Mais il y a aussi le sucre en lui-même. Le sucre, il n'est pas bon pour ce microbiote. Est-ce que c'est vraiment tous les sucres qui sont mauvais? Parce que bon, il y a les sucres raffinés, les sucres de canne, les sucres maintenant naturels, autres d'ailleurs que sucre. Il y a tous les stevia, les édulcorants. Est-ce qu'on les met tous dans le même sac?
Alors, le sucre, c'est vrai que souvent, le sucre, quand on dit sucre, c'est vrai que ça veut dire tellement de choses.
Il y a du sucre dans les fruits, hein, donc
voilà,
naturel.
Donc il faut bien différencier. Mais quand, par exemple, le problème, c'est surtout dans les aliments industriels, vous avez beaucoup de sucre caché sous des noms divers et variés. C'est-à-dire, par exemple, le jus de pomme, par exemple, sirop de maïs, etc. Donc vous avez plein de mots trompeurs et qui témoignent de la présence de sucre. Donc tous ces sucres, effectivement, c'est un petit peu embêtant. Parce qu'on s'est rendu compte que non seulement la graisse, l'excès de graisse modifiait le microbiote, mais l'excès de sucre également. Et donc
à bannir.
Et oui, bien sûr.
Bon,
bannir.
Dans les fruits, ça va. Ouais.
Alors, le fructose industriel est vraiment aussi à bannir, parce qu'en fait, on pense qu'il fait partie actuellement de l'épidémie d'obésité et de foie gras. Vous savez, de
stéatose
hépatique, la NASH.
Voilà. Toujours dans les ennemis, le fait de manquer de magnésium aussi, ça perturbe le microbiote, c'est-à-dire
Le microbiote aussi a besoin de magnésium. Et la population française est très carencée en magnésium.
Sûr, ouais.
Voilà. Et le magnésium, il va participer à de nombreuses réactions biochimiques de l'organisme, mais il va servir aussi au microbiote. Et il va servir à l'équilibre même du microbiote. Il va être utile pour la perméabilité intestinale. Sa carence va favoriser l'inflammation. Donc on se rend compte qu'effectivement, tous les facteurs sont réunis pour la prise de poids.
Jimmy ?
Est-ce qu'il y a des cuissons qui abîment le microbiote? Là, il fait beau, ça va être la saison de sortir le barbecue. Exactement. Alors ça,
on adore tout ça.
On va faire ça tous les jours, mais est-ce qu'il y a des cuissons qu'il faut éviter justement?
Vous allez
protéger.
Ranger le barbecue vite fait, vous allez voir.
Ah, mince. Voilà.
Alors effectivement, je pense qu'il va falloir faire attention à ne pas l'utiliser tous les jours, je crois, Jimmy. C'est-à-dire que d'abord, vous avez le problème du benzopyrène qui va être issu des cuissons comme par exemple effectivement le barbecue. ou les viandes grillées, etc.
Tout là, ce qui est un peu cramé, voilà, de vous toute allez façon, avoir c'est un, pas bon.
Ouais. Les aliments fumés aussi vont dégager du benzopyrène à la cuisson. Donc vraiment, le benzopyrène favorise le déséquilibre du microbiote. Et puis après, vous avez toutes les cuissons à haute température, quelles qu'elles soient, même le four compris. Donc dès que vous avez une cuisson à haute température, vous avez une formation de produits de Maillard, vous savez, les produits de déglycation, qui sont dus effectivement à ces températures, à ces cuissons.
Donc les cuissons
à haute
douces
température.
À privilégier. Ouais.
Et voilà. Ouais. Et donc c'est le problème de ces produits de Maillard, c'est qu'ils font effectivement non seulement déséquilibrer le microbiote, appauvrir toutes les espèces protectrices comme les lactobacilles et les bifides.
Ça, c'est les bonnes bactéries de notre, dans voilà. notre ventre. Ouais.
Exactement. Et donc effectivement, ils vont favoriser l'inflammation et le stress oxydant. Donc. Ouais. Effectivement,
bon,
il va falloir limiter.
Avec modération, combien par mois on peut faire un barbecue par mois, un par semaine en été?
Alors surtout quand vous faites des choses que vous savez qui ne sont pas intéressantes pour la santé, à côté de ça, amenez des protecteurs. Je pense que c'est vraiment une clé.
Donc un barbecue le week-end, Jimmy, puis le reste de la semaine de la cuisson vapeur, on va en parler. Une dernière chose, je sais que vous dites que les polluants, les pesticides, ça n'aide pas nos bactéries intestinales, c'est pas bon évidemment, on le comprend, mais ça veut dire qu'il faudrait manger exclusivement bio par exemple?
Alors effectivement, les pesticides, même à faible dose, sont nocifs pour le microbiote. Et là, il y a eu des très belles études faites justement réalisées par l'INSERM en France, sur 8000 et plus de 60 000 patients qui montrent qu'effectivement, plus on mange de végétaux bio, et moins on a de problèmes de poids et de maladies métaboliques, mais que manger bio, ça ne suffit pas, et qu'il faut aussi manger moins de produits animaux. Et que c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Donc en fait, manger que bio, c'est pas suffisant. C'est manger bio, mais d'une certaine manière.
On va y venir. Docteur Coutina, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous, docteur Martine Cotina. Vous êtes gastro-entérologue et l'auteur du livre « Maigrir de plaisir, en charmant ses bactéries » aux éditions Thierry Soucard. On va passer aux solutions à présent, à vos conseils pratiques pour maigrir en se faisant plaisir. Quelle belle promesse, Jimmy. Ça vous intéresse, hein? Donc on y va. Et donc, on va apprendre à charmer nos bactéries intestinales puisque ce sont elles qui sont responsables de nombre de problèmes de poids. Alors, on a parlé des ennemis, on va passer aux amis. Premier pilier très important. Pour chouchouter nos bactéries intestinales, les fibres, c'est-à-dire on parle de quel aliment précisément?
Alors les fibres, ça fait longtemps qu'on sait qu'effectivement elles sont intéressantes pour notre santé en général et notamment pour le poids. Quand on parle de fibres, on va parler des légumes, des fruits, des céréales complètes et pas raffinées, c'est-à-dire tout ce qu'on trouve à l'heure actuelle, des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, des oléagineux comme les amandes, les noix, les noisettes. Donc, et les légumineuses, je l'ai dit.
Ouais, oui, tout voilà. Ça, donc les pois chiches, etc. Voilà. Donc fruits et légumes. Mais l'idée, il y a des gens qui n'aiment pas trop les légumes. Hein. Jimmy n'est pas non plus un fou de choux, de choses comme ça, je le sais, je vous connais un petit peu. Néanmoins, donc, on ne va pas se contenter de manger le même que des tomates, parce qu'on aime les tomates. Il faut varier, c'est très important, je crois.
Très important de varier. Pourquoi? Parce que chaque espèce bactérienne va dégrader un certain type de fibres. Et donc, du coup, si on veut une variété d'espèces bactériennes, il faut apporter une variété de fibres pour pouvoir avoir une biodiversité qui soit importante.
Jimmy.
Parce que vous dites que justement, quand on regarde l'assiette des Français, elle est un peu trop stéréotypée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on mange tout le temps tous la même chose, mais c'est vrai en fait.
Les kebabs, les chips.
On a quelques recettes où on tourne en rond, vous avez raison.
Exactement, moi j'ai été très surprise et j'ai toujours interrogé beaucoup mes patients sur leur façon de manger. Et je me suis rendu compte qu'effectivement ils mangeaient toujours pareil, que dans la soupe il y avait toujours les mêmes légumes, que l'entrée c'était toujours par exemple une salade verte, donc sans autres aliments colorés par exemple pour l'accompagner. Etc, etc. Il y avait assez peu de variétés. Voilà. Et donc, ils me demandaient souvent, mais quels autres légumes je peux mettre? Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai écrit l'assiette Amalyse, parce qu'en fait, j'ai énuméré, par exemple, dans l'assiette Amalyse, tous les légumes qu'on pouvait manger pour montrer la variété. Bien sûr, il faut tenir compte des saisons, tout ça, mais c'est important de changer et de varier.
Pour perdre du poids, donc, dans les aliments protecteurs du microbiote, vous dites qu'il y a aussi, donc là, on vient de parler des fibres, mais il y a aussi tous ceux qui contiennent des polyphénols. Ça veut dire quoi? Et on les trouve dans quoi, ces polyphénols?
Alors les polyphénols, ce sont des super antioxydants qu'on va trouver dans beaucoup d'ingrédients, donc par exemple beaucoup d'aliments, comme par exemple les herbes aromatiques, comme par exemple les épices, cannelle, curcuma, comme par exemple aussi le clou de girofle que j'oubliais, qui est très important, qu'il faut penser à rajouter.
Dans l'huile d'olive aussi, il y a des polyphénols, je crois.
Dans l'huile d'olive, dans le chocolat, dans le thé, dans les fruits rouges. Hein. Les fruits rouges sont vraiment très intéressants, dans certains légumes, dans les noix, etc. Donc vous avez quand même, vous avez toute une liste à la fin du livre.
Oui, tout est bien écrit, je l'ai bien lu. Hein. Donc je sais qu'il y a tous les petits tableaux, on voit exactement quoi. On peut le regarder avant d'aller faire les courses, c'est très pratique, je trouve. Jimmy.
Autre pilier de votre programme, les oméga 3, et vous dites que certains ont un déséquilibre entre les oméga 3 et les oméga 6.
Je pense qu'il y a plus d'oméga 6 chez vous.
Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que finalement, on a l'impression que c'est la même chose pour les gens. Si on interroge les Français, oméga 3, oméga 6,
c'est des oméga.
Bon, c'est des oméga et c'est bon pour la santé.
Effectivement, on s'est rendu compte que la population française était très carencée en oméga 3. Et pour cause, les aliments qui contiennent des oméga 3 sont relativement peu abondants par rapport aux aliments qui contiennent des oméga 6.
Je l'avoue, on a fait une mini consultation, docteur Cotina et moi-même. Elle m'a dit qu'est-ce que vous mangez. Elle m'a dit oulala, il vous manque des oméga 3.
Ah, vous vous moquez de moi depuis le début de l'émission, mais en fait, voilà, vous êtes comme moi. Mélanie.
Et vous m'avez conseillé une huile notamment. Alors allez-y, expliquez-nous où on les trouve, les bons oméga 3.
Alors les bons oméga 3, on va les trouver dans les huiles. Dans les huiles comme par exemple l'huile de colza que tout le monde connaît plus ou moins, mais aussi l'huile de cameline.
Voilà, c'est ma trouvaille de l'année, celle-là.
Voilà. Ouais. L'huile de cameline qui est intéressante parce qu'en fait, c'est une huile qui est trois fois plus dosée en oméga 3 que la colza. Vous allez trouver aussi dans l'huile de noix, mais dans l'huile de noix, elle est intéressante, mais il y a quand même pas mal d'oméga 6, donc on va s'en méfier un tout petit peu pour l'utilisation quotidienne. Et puis, il y en a bien sûr dans l'huile de lin, mais dans l'huile de lin, moi, je ne la conseille pas en pratique parce qu'elle est trop riche en oméga 3 et donc elle est trop rapidement oxydable. Et puis, vous en avez aussi dans les petits poissons gras, comme par exemple sardines macro. Vous en avez aussi dans les algues, des oméga 3. Voilà.
Bon, donc, comme je lui ai dit que je n'aimais pas les poissons macro, elle m'a dit huile de caméline. Alors, j'en ai acheté et au moins, c'est réglé. Et ces huiles-là, d'ailleurs, qui sont riches en oméga 3, il faut les garder au réfrigérateur. Je ne savais pas.
À l'abri de la lumière, donc c'est bien à l'intérieur du réfrigérateur. Il faut les garder à l'intérieur du réfrigérateur parce qu'en fait, les oméga 3 sont fragiles et donc rapidement, facilement oxydables.
Donc, petit conseil, on met son huile de caméline au frigo.
Exactement.
Moi, j'adore le beurre. J'adore cuisiner avec du beurre.
On parle de très très loin. Là.
Le beurre, c'est la vie. Même le beurre cru, le matin, les tartines.
Ah, ça, j'avoue, c'est bon quand même.
Est-ce qu'il faut bannir le beurre pour le microbiote?
Il ne faut pas bannir les graisses saturées parce qu'en petite quantité, on en a besoin pour l'organisme. Donc, si vous gardez un petit peu de beurre le matin, Jimmy, c'est parfait.
Sur sa tartine, mais, ça, il a le droit.
Mais ne l'utilisez pas dans la cuisine.
Jamais cuit.
Voilà, ne le faites pas chauffer et gardez le beurre que pour le matin.
De
l'huile d'olive.
Ça, l'huile d'olive, vous utilisez l'huile d'olive.
Oui, mais bon,
l'huile d'olive
le beurre,
tient bien la cuisson. Ce sont des habitudes alimentaires.
Moi, j'étais hyper fière en lui disant, moi, je ne consomme que de l'huile d'olive, c'est génial. Elle me dit, oui, mais au niveau oméga 3, c'est nul. Hein, donc, voilà.
C'est
on
ça.
Médiocrité, Mélanie, c'est bien.
L'huile d'olive, elle est intéressante parce qu'en fait, elle est riche en polyphénol, elle est riche en oméga 9, mais elle contient aussi un petit peu d'oméga 6, mais pratiquement pas d'oméga 3.
Donc la cameline.
On doit la compléter. Voilà.
Il y a des cuissons à bannir, on l'a dit tout à l'heure, mais du coup, comment on cuisine? Alors, c'est quoi la cuisson à privilégier?
Alors, la cuisson à privilégier, ça va être effectivement les cuissons vapeur et les cuissons mijotage, mais en sachant que, bien sûr, il faut consommer une grande partie crue.
Ouais. Et oui, ça m'a étonnée. C'est vrai que moi, j'ai vu dans votre livre que donc, le brocoli, par exemple, c'est un aliment très intéressant. Et vous dites qu'il faut le manger cru. Mais bon, enfin, moi, cru, j'ai jamais essayé, en fait, le brocoli cru.
Tout à fait.
Si on le fait cuire, en tout cas, pas beaucoup, c'est ça?
Voilà. Et effectivement, vous pouvez très bien le mettre cru, c'est-à-dire que vous pouvez le mixer pour en faire une petite semoule et le faire macérer dans l'huile et du citron. Et donc, il va cuire, mais de manière plus naturelle.
Super. Et donc, en suivant vos conseils, tout ce qu'on vient de dire et de détailler, il y en a encore beaucoup plus. Hein. Il faut aller voir le bouquin. Je peux espérer, ou Jimmy, maigrir en combien de temps, si on suit bien votre programme?
Eh bien, c'est vrai qu'en quelques semaines, 3 semaines, 4 semaines, vous avez déjà perdu pas mal de petits kilos.
Mais combien,
pour au moins
par
démarrer.
Exemple, ouais.
Oh, ça serait raisonnable d'en avoir perdu entre 3 et 4 et 5.
C'est
juste au début, parce qu'en fait, dès qu'on fait un changement nutritionnel, au départ, c'est normal, les premiers kilos, on les perd assez vite. Et c'est après où il faut prendre son temps pour continuer à les perdre.
Rendez-vous dans un mois, alors, dans ces cas-là.
On en reparle dans un mois. Merci beaucoup, docteur Martine Cotina, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et donc, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur votre méthode pour maigrir sans stress, sans souffrir, je rappelle et je conseille vivement votre livre « Maigrir de plaisir, en charmant ses bactéries » aux éditions Thierry Soucard. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien et aujourd'hui une petite nouveauté, une chronique beauté avec notre journaliste Benjamin Lévesque qui va nous aider à prendre soin de nos cheveux, éviter l'effet paille sur notre tête classique en été. Des conseils très pratiques dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. À présent, il est temps de vous faire du bien, de prendre soin de votre apparence avec vous, Benjamin Lévesque. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Dans cette chronique beauté, vous avez décidé aujourd'hui de prendre soin de nos cheveux pendant les vacances d'été.
Et oui, puisque chaque année, eh bien, on vous parle des dangers du soleil sur votre peau, eh bien, il faut savoir que c'est exactement la même chose pour vos cheveux. Le soleil abîme le cuir chevelu. Alors, toutes les tignasses sont à risque, hein, mais plus le cheveu est fin, plus il est vulnérable. Et si vous avez fait une couleur juste avant de partir en vacances, attention, vous n'êtes pas à l'abri. C'est encore pire puisque les cheveux colorés sont plus sensibles que les cheveux naturels. Et pour comprendre les effets du soleil sur nos cheveux, eh bien on écoute François Lally, il est coiffeur et expert beauté pour les salons René Furterer.
Le soleil, c'est pas bon pour le cheveu. Pourquoi ? Parce qu'on va s'imaginer le cheveu comme un toit de maison avec des tuiles. Et donc ces tuiles, en fait, sont les écailles de notre cheveu qui, avec le soleil, dès le premier jour, les écailles commencent à gonfler. Deuxième jour, elles se soulèvent. Au troisième jour, bon, bah, les écailles sont complètement soulevées. Donc on s'imagine que notre toit est complètement, les tuiles sont complètement soulevées et qu'on a des trous partout à l'intérieur. Et donc les UV pénètrent dans le cheveu et viennent abîmer la kératine du cheveu. Donc on n'a plus de protection. Et la kératine, c'est ce qui constitue notre cheveu. C'est vraiment la fondation de notre cheveu. Le cheveu est constitué de kératine.
Voilà, et on comprend mieux donc pourquoi eh bien, certains se retrouvent à la fin de l'été avec des cheveux très secs, cassants, rêches. Avec cet effet paille, Mélanie, vous savez, pas très agréable.
Non, moi je sais pas, mais Jimmy, je crois qu'il a de la paille tous les étés. Donc...
et puis qui dit été, dit baignade. Et là aussi, eh bien, l'eau de mer qui est très salée et la piscine avec du chlore eh bien, peuvent aussi faire des dégâts.
Effectivement, hein, Benjamin, ça donne envie quand même d'en prendre un peu soin pour éviter la paillasse sur la tête de Jimmy. Alors Benjamin, si je veux éviter de devoir justement tous les couper finalement à la fin de l'été, à la rentrée, parce qu'ils sont trop abîmés, vous conseillez quoi en termes de soins ?
Alors j'ai un tas de conseils à vous donner, Mélanie, vous allez voir, vous aurez des cheveux.
Il suffit de regarder votre chevelure hein, pour comprendre.
Là, ils sont attachés, mais d'habitude, ils sont très beaux. Et vous aurez les mêmes, vous aurez des cheveux magnifiques au retour de vacances. Mais d'abord, je suis allé dans la rue pour voir si vous aviez aussi des idées pour prendre soin de votre chevelure l'été.
Je mets des masques l'été sur mes cheveux parce que j'estime que c'est comme la peau, ça les abîme, donc du coup il faut les protéger aussi.
Pour les protéger du soleil, je fais pas grand chose de particulier, non. C'est vrai qu'on se les lave plus aussi avec le sel de mer, etc. La transpiration, on doit les laver plus souvent.
Il existe des huiles aussi que vous vaporisez, que vous mettez dessus pour éviter que le soleil, c'est des anti-UV.
Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Mélanie et Jimmy aussi, hein, je sais que les cheveux, c'est votre souci du quotidien.
Ouais.
Alors, ce que vous devez retenir, il y a une chose, c'est surtout appliquer un spray anti-UV sur vos cheveux. De la même manière, en fait, que vous mettez de la crème solaire sur votre peau.
Vous tartinez le crâne, Jimmy.
Exactement. Pour Jimmy, oui. Vous appliquez une crème capillaire qui va vous protéger des rayons. Jimmy, autre conseil pratique pour vous, c'est encore plus simple. On l'applique de la racine jusqu'aux pointes.
Ça fait une bouillie sur sa tête, du coup, parce qu'il n'a pas de racines, pas de pointes.
Donc toute la journée, hein, avant et pendant l'exposition au soleil. Et surtout, on n'oublie pas d'en remettre une bonne couche après la baignade. Et puis en rentrant, eh bien, on va pouvoir rincer ses cheveux. Il y a des huiles après soleil qui existent, il faut le savoir. Et dernier petit conseil, le soir avant de se coucher, on ne le répétera jamais assez, mais je vous conseille un petit masque pour bien hydrater le cuir chevelu. Vous le laissez poser toute la nuit sous une serviette chaude. Enfin, le mieux, on ne va pas se mentir, comme dirait Jimmy, eh bien, c'est de porter un chapeau ou un bandana.
D'ailleurs, Benjamin, on dit souvent qu'avec l'été, le soleil, on a les cheveux qui s'éclaircissent. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, mais alors c'est pas bon signe. Hein. C'est en fait les UV qui décomposent le pigment du cheveu, comme me l'explique le coiffeur François Lally.
Cet éclaircissement, c'est tout simplement l'oxydation avec le soleil et donc les écailles du cheveu qui se sont soulevées et le cheveu qui s'est abîmé. Et donc ça veut dire que c'est déjà trop tard, qu'on a déjà altéré la kératine du cheveu et que derrière, bon, bah, soit on coupe, soit on arrive à réparer si c'est pas allé trop loin avec des soins à base de kératine. Et donc une fois que la couleur du cheveu s'est modifiée, qu'il y a eu oxydation sur le cheveu, bon, bah, là on est dans la phase irréversible et donc on doit couper les cheveux.
Moi, si on veut éclaircir nos cheveux mais les garder en bonne santé, qu'est-ce qu'on peut faire, Benjamin ?
Alors, la façon la plus simple, c'est d'acheter un spray éclaircissant. Vous en trouvez partout dans les magasins de cosmétiques, dans les parapharmacies. La seule chose, il faut bien regarder la composition du produit et s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau oxygénée. Sinon, vous allez avoir un reflet roux, ça va virer au roux.
C'est joli roux, non ?
Non, quand vous voulez du blanc et que vous avez du roux, non, vous êtes
d'accord.
Plutôt déçu.
Okay.
Et sinon, il y a d'autres astuces plus naturelles pour éclaircir les cheveux l'été, notamment grâce à certains aliments, comme l'explique la naturopathe Angèle Ferromag.
Il y a évidemment le citron qu'on peut mettre ou sur des mèches ou sur toutes les cheveux, donc appliquer du jus de citron et laisser sécher au soleil ou en tout cas à l'air libre. Sinon, le miel est assez efficace aussi pour éclaircir les cheveux. On peut mettre 2 bonnes cuillères à soupe dans son masque pour les cheveux et laisser poser 15 minutes. Et sinon, il y a évidemment la fameuse camomille. On peut faire une grosse infusion de camomille et après s'être lavé les cheveux, se les rincer à l'infusion en fait de camomille et ça permet de les éclaircir de façon assez efficace.
Enfin, dernier conseil, le vinaigre de pomme ou le bicarbonate de soude pour éclaircir vos cheveux. Mais ça, c'est uniquement pour les blonds ou les blondes puisque ça ne fonctionnera pas sur les cheveux foncés à la base.
Merci beaucoup Benjamin, vous avez oublié Jimmy. Alors, oubliez le vinaigre, hein, c'est pour les blonds, c'est pas pour vous. Merci beaucoup, grâce à vous on connaît maintenant les bons gestes pour prendre soin de nos cheveux cet été.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après c'est la chronique sexo. Aujourd'hui, Catherine Blanc, notre sexologue, va nous expliquer pourquoi certains voisins sont trop bruyants quand ils font l'amour.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed. Et elle entre dans le studio tout de suite, au plus grand plaisir de Jimmy, c'est Catherine Blanc. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ?
Je vais super bien, et vous deux ?
Jimmy, il est tout content.
Après un lancement pareil, ça ne peut plus aller.
C'était magique.
C'est la fin de
mon pauvre Jimmy, qui se croit obligé de trouver formidable ma venue.
Il aime beaucoup, vous inquiétez pas Catherine. Alors on va répondre à la question aujourd'hui de Mathis, et d'ailleurs c'est Jimmy qui va nous la lire. Allez-y.
Ah oui, mes voisins ont tendance à faire l'amour, les rideaux ouverts et la nuit, ils font l'amour, la fenêtre ouverte. Ils en font profiter tout le voisinage, à votre avis, c'est considéré comme de l'exhibitionniste. Est-ce que je dois leur dire quelque chose ? Alors évidemment qu'il faut leur dire quelque chose, mais Catherine, pourquoi est-ce que certains ont besoin de montrer leur performance sexuelle ?
Je crois que ça fait partie de leur excitation d'imaginer que d'autres sont en désir de quelque chose qu'ils ne peuvent pas vivre quand on les vit soi-même. Donc c'est une façon de se dire que moi je vis quelque chose, je prouve que je vis quelque chose, que les autres ne vivent peut-être pas. Je vous montre à quel point je le vis, parce qu'en plus je le théâtralise tant qu'à faire.
Non mais rideau ouvert, fenêtre ouverte, là c'est clairement de l'exhibitionnisme.
Mais
il pose
bien
la
sûr.
Question, mais là je crois que c'est clair. Non
oui, ouais. C'est de l'exhibitionnisme. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette volonté d'exhiber sa sexualité, c'est pour se rassurer quant à son pouvoir, c'est pour aussi gêner l'autre et avoir un double pouvoir. C'est le pouvoir de ce que je fais et le pouvoir de faire rentrer l'autre à son insu. C'est typiquement l'exhibitionniste du jardin public.
Et mais gêner les autres, c'est bizarre quand même. Hein
ben c'est l'idée que je peux les exciter et l'idée que je peux les déranger, et ce qui me donne un pouvoir suprême d'une certaine manière et qui est une façon de les faire rentrer à leur insu, contre leur gré, dans le cadre de ma vie privée, de ma sexualité.
Est-ce que c'est pas un peu comme quand on fait ces choses complètement stupides, de prendre en photo ces plats pour les montrer aux autres ? C'est pas tant pour se faire plaisir à soi, mais c'est pour montrer aux autres.
Dans chaque chronique, il nous parle de nourriture. Hein, mais c'est...
Oui, là,
non,
on
mais
est passé.
Non, mais ça, c'est l'alimentation.
Non, mais vous dites que là, l'exhibitionniste, c'est montrer qu'on a un rapport sexuel et pas les autres. Est-ce que c'est pareil dans la vie de tous les jours ? On est toujours fier de montrer quelque chose que l'autre n'a pas ? Une sorte de victoire qu'on peut avoir sur son voisin.
Alors, c'est ou pour montrer, moi je mange ce que vous ne mangez pas, mais c'est aussi pour se rassurer que je mange quelque chose d'extraordinaire.
Vous ne le faites jamais d'ailleurs, vous ne m'avez jamais envoyé des photos de vos plats, vous ne devez pas manger grand-chose de bon.
J'ai eu un moment de flottement, j'ai dit de quoi va-t-il parler, parce que là, l'émission va être très malaisante. Non, je ne fais pas ça, non, parce que je mange toujours des kebabs, donc ça, personne n'en a envie, donc forcément. Mais voilà. Mais ils ont conscience, les gens, qu'ils dérangent en faisant ça, que. Parce qu'on peut vouloir montrer aux autres, mais quand on a la conscience que c'est dérangeant pour les gens et que parfois il y a même des enfants, il y a un côté pathologique, non ?
Oui, il peut y avoir un côté extrêmement pervers, puisque c'est réduire l'autre à l'état d'objet. C'est-à-dire que l'autre n'est plus sujet de la situation, à moins de l'inviter, évidemment, pour qu'il soit sujet et qu'il ait le désir de l'être. Mais sinon, c'est une façon, à son insu, la personne était en train de dormir et tout d'un coup, elle est avec une histoire sexuelle, une histoire pornographique, le cas échéant, dans sa tête. Donc elle est tout d'un coup contrainte à voir même ce qu'elle ne voit pas, puisqu'elle entend. Et donc, pareil pour les enfants, c'est extrêmement. D'ailleurs, on l'entend beaucoup dans le cadre des consultations psy, des adultes qui ont été énormément perturbés par, non pas parce qu'on a entendu ponctuellement papa et maman faire l'amour, mais par une grande démonstration d'une officialisation d'un pouvoir de l'un sur l'autre, et souvent de l'homme sur la femme, qui fait que l'enfant essaie de ne pas entendre pour ne pas participer, et d'un point de vue psychique, a le sentiment d'avoir participé à la sexualité parentale, d'y avoir pris part, et donc extrêmement traumatisant, parce que ça, non pas une allure incestueuse, mais incestuelle, c'est-à-dire qu'il a vraiment le sentiment fantasmatique, mathématiquement parlant, d'avoir participé à une sexualité.
Bon, alors là, Mathis, c'est pas ses parents, c'est ses voisins. S'il est vraiment gêné, comme il a l'air de l'écrire, franchement, il peut aller leur parler, non ? Ou leur envoyer un message.
Ou la police, pas, non, c'est pas interdit, c'est un délit, non ?
Comment vous lui conseillez de réagir, en tout cas, puisque ça le dérange ?
Alors, d'abord, si ça le dérange, je trouve toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui fait que ça me dérange. Parce qu'il y a des gens, ce qui les dérange, c'est aussi que la personne marche au-dessus de sa tête.
Oui,
donc, on a tous un degré d'acceptation de la présence de l'autre.
Voir son voisin avoir des rapports sexuels, je pense que la limite, elle est.
Je pense à tout le monde.
Bien sûr. Après, effectivement, pourquoi c'est lui qui doit se barricader ? Pourquoi c'est lui qui doit fermer ses fenêtres ? Parce que l'autre ne se barricade pas et ne ferme pas ses fenêtres. Donc je pense qu'en effet, là on est ça doit être au niveau de la loi, sur le même versant que atteinte à la pudeur.
Bien sûr.
Parce que là on est vraiment, on vient déranger la pudeur de l'autre parce que nous avons le droit d'être pudiques. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une société où on parle de sexualité, où on rigole de sexualité, évoque notre sexualité, etc., que nous sommes tous dans le devoir d'être à ce niveau de parler, de voir, d'entendre la sexualité de son voisin. Bien sûr que non. Donc je pense que la meilleure des choses, c'est d'aller le dire à son voisin, que ça suffit, et sinon d'aller porter plainte.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans son rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Tout de suite, c'est Mathieu Noël et son équipée sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Restez avec nous aujourd'hui dans l'équipée sauvage. Un penseur, un philosophe qui va nous expliquer comment vivre dans un monde imprévisible, cette circonstance. Frédéric Lenoir est notre invité.
Écoutez, c'est parfait. Nous, on essaie de vous apprendre à vivre en bonne santé avec vous.
C'est
on va essayer d'apprendre à vivre en rigolant aussi un peu. Parce
on
que
se complète.
Que ça sera drôle aussi.
Bon,
hein.
On se complète parfaitement. Mélanie, c'est fou. Hein.
Vous devriez faire un duo un jour, hein, peut-être.
Peut-être même hors antenne, dans la vie aussi. Bon, bref, on en parlera.
Oui, non, ouais, vous l'avez lâché un peu trop là. Allez, merci beaucoup, Mathieu. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.